Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de retrouver Claude Revel, éminente spécialiste de l'intelligence économique, auteur confirmé, mention d'honneur du prix Turgot 2008 pour son ouvrage « Nous et le reste du monde » qui était paru chez Saint-Simon et qui a notamment, par ailleurs, contribué à l'ouvrage de collectif du Cercle Turgot La Chine-Amérique. Bonjour Claude Revel.
Bonjour Jean-Louis Chambon.
Heureux de vous accueillir. Alors, vous venez de faire paraître un nouvel ouvrage, La France, un pays sous influence, chez Weber, un ouvrage de 243 pages pour 21 euros. Je voudrais, avant que nous rentrions sur le fond, peut-être vous présenter un peu plus. Alors, vous êtes une ancienne élève de l'ENA, nul n'est parfait.
Nul n'est parfait.
Et en plus de la promotion Voltaire, dont on parle tous les jours et qui est en pleine actualité. Alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure, un des grands spécialistes de l'influence et de l'intelligence économique. Vous êtes professeur à Schema Business School et vous êtes conseil de groupes internationaux et bien sûr l'auteur de chroniques et de plusieurs essais. Alors, en 6 chapitres, vous présentez ces différentes influences. Je voudrais quand même, avant de rentrer dans les développements et vos réflexions, que vous nous éclairiez sur ce qu'est l'influence par rapport à l'intelligence économique, quels sont leurs liens, et puis peut-être nous dire ce qu'on ne sait pas toujours en France, ce que veut dire intelligence, c'est plutôt l'acception anglo-saxonne que l'acception classique littéraire française. Alors voilà, donc c'est quoi l'intelligence? Alors, vous en faites d'ailleurs une définition qui est absolument excellente, mais je vous laisse la dire.
Écoutez, merci beaucoup. À vrai dire, je ne me souviens plus par cœur de ce que j'ai écrit dans la définition,
je vais vous le redire.
Je vais vous le lire,
comme ça vous pourrez faire le développement. L'influence est une relation consciente ou inconsciente qui permet de faire penser ou agir autrui selon ce que veut l'émetteur de l'influence, sans exercice de la force, ni contrat, ni contrainte.
Voilà.
Je crois que c'est une définition absolument
lumineuse. C'est ça, exactement.
Lumineuse.
C'est-à-dire sans force ni paiement.
C'est ça.
Voilà,
c'est
uniquement par la conviction. Alors justement, l'influence a deux grands moyens de se produire, de s'exercer, qui sont la séduction et la conviction ou argumentation. La première, la séduction, s'adresse plutôt à l'émotion, à l'affectif, à l'instinct. Alors que la conviction-argumentation s'adresse à la raison. Dans la réalité des faits, les deux sont toujours un peu mélangés, liés, évidemment. Alors ça, c'est au plan individuel, mais on retrouve exactement les mêmes composantes au plan collectif, sur les opinions, à la fois par des images absolument frappantes et en même temps par des bonnes argumentations. Alors pour répondre à votre question sur le lien entre l'influence et l'intelligence économique, l'influence, c'est, je dirais, la troisième partie la plus achevée de l'intelligence économique.
D'accord.
L'intelligence économique, c'est 3 choses très brièvement. C'est d'une part, connaître son environnement, donc le traitement de l'information, ce qu'on appelle communément la veille, identifier, etc., les acteurs et les anticiper. Premier grand point. Deuxièmement, c'est utiliser cette information pour se prémunir, donc pour prévenir les risques, sa partie sécurité. Et troisièmement, c'est utiliser cette information pour agir sur son environnement extérieur et ne pas le subir. Et c'est l'influence.
D'accord. Alors, et l'intelligence étant compris comme le renseignement.
Alors, dans les deux sens du terme, l'intelligence économique, c'est peut-être pas un bon terme, enfin, on n'en a pas trouvé d'autre.
Ouais.
Il est dans sa double acception française, qui est la compréhension, l'explication. Et en effet, anglo-saxonne, qui est le renseignement, parce qu'il faut aller chercher de l'info et la collecter. Et voilà.
Alors, dans vos différents chapitres, vous passez en revue les différents aspects de cette influence, son savoir-faire, ses nouveaux outils, ses acteurs. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur ces aspects-là. Alors, vous précisez que peut-être c'est là-dessus que vous pouvez faire un développement. En quoi l'influence est un rouage clé de l'ordre mondial? Et dans ce chapitre, vous parlez d'un néologisme, la coopétition. Alors, c'est quoi ? Ce barbarisme.
Alors la coopétition, d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je le reprends. On est quand même, avec Éric Denessé, avec qui j'avais fait un premier livre il y a quelques années, on est quand même les deux qui l'avons, je crois, introduit en France, parce qu'il est d'origine américaine, justement, Ludwig et compagnie. Enfin, et l'idée, c'est que dans un monde complètement multipolaire, à la fois au niveau géopolitique, mais au niveau des entreprises, une concurrence dans tous les sens, on ne peut plus agir seul, il faut agir avec les autres acteurs et éventuellement avec ses concurrents. sur des aspects qui sont plus importants et qui nous concernent tous. Par exemple, la recherche et développement. Il y a des gens qui sont
donc
parfaitement concurrents.
Les genres et les plans se mélangent.
Se mélangent. On est obligé de ne pas être simplement dans une logique de rapport de force, de je vais tuer l'autre, etc. Il faut aller beaucoup plus loin. Cette compétition se joue par la coopétition sur certains points. Il faut s'entendre avec ses concurrents et notamment sur les questions justement d'influence auprès des organismes internationaux.
Alors, quels sont les acteurs de cette influence et alors, comment ? Il y a des in et des out, j'imagine. Je vous laisserai dire en quoi où se situe la France entre le in et la out. Les principaux acteurs, ils sont anglo-saxons.
Alors, il y a des acteurs...
d'influence.
Oui. Alors, déjà, disons, le fait que l'influence est devenue un rouage clé de la mondialisation, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est déjà une influence anglo-saxonne en elle-même. Parce qu'ils nous ont passé, via leur soft power, le fait que l'influence est à la base de quasiment toute décision publique. L'influence de divers acteurs, ce qu'on appelle communément le lobbying. Hein. Et deuxièmement, c'est devenu un rouage clé aussi parce qu'il y a une influence permanente sur la formation de nos opinions. Pas seulement par la presse, mais aussi par les divers relais d'opinion, les ONG, la société civile, et maintenant par les réseaux sociaux et le web. Alors la France par rapport à ça.
Un mot avant. Oui. La France par rapport à tout ça, mais immédiatement on pense aussi à la nouvelle façon de travailler les opinions. Je pense aux réseaux sociaux, au web, etc. Donc ça, c'est quand même... effectivement, là encore, l'empreinte américaine.
Oui.
Et alors, quelle est la place de ce nouvel outil dans les stratégies d'influence ? Ça devient dominant ou ça reste un outil parmi tant d'autres ?
Vous voulez dire les réseaux sociaux ?
Oui, les réseaux sociaux, oui. L'Internet, enfin tout ce que vous voulez. Quoi.
Voilà, ça devient... Alors, je ne dirais pas un nouveau paradigme, parce qu'à mon avis, c'est un outil de plus, mais ça devient un outil absolument obligatoire.
D'accord.
Absolument obligatoire, mais parmi tous les autres. Il n'a pas détrôné les autres. Donc, en fait, ça devient de plus en plus compliqué, si vous voulez, parce que c'est un outil de plus. Ouais. À côté des réseaux d'influence, disons classiques, à côté de la presse, des médias, se sont ajoutés aussi tous les lieux de formation, je dirais, informels de l'opinion, que sont les think tanks, la société civile, les ONG, les groupes de travail divers et variés, tout ça. Parce que ce qui est le plus important, c'est que l'influence aujourd'hui, elle est détenue par une multitude d'acteurs. Justement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet dont tout le monde peut s'emparer, tout le monde peut faire de l'influence. Et quand on en fait, quand on est un État ou une grande entreprise, il faut se mettre dans la tête que tous les autres peuvent en faire aussi. Donc, il faut les connaître.
Donc, d'où la difficulté de repérer ces sources d'influence. Et donc, en fait, on comprend que...
L'influence économique.
Tout à fait. C'est donc un métier.
C'est un métier. C'est devenu un métier.
C'est un vrai métier.
Voilà.
Alors oui, voilà, on voit que c'est un jeu d'acteurs où les anglo-saxons sont tout à fait dominants.
Oui.
Vous dites par contre que la Chine est un élève très prometteur, le Brésil en route pour la gloire, etc.
Oui.
Il y en a d'autres. L'Union européenne, la malgré moi, de la soft power.
Voilà.
Et la France, je prends votre expression, la belle endormie à réveiller.
Exactement. C'est l'histoire de la belle au bois dormant, si vous voulez, qui est belle, qui a tout pour plaire, puis qui dort. Enfin, j'exagère un peu,
on s'est un peu réveillé, mais c'est une image.
Si vous voulez. Oui. Et on a tout pour plaire, pourquoi ? On a un capital culturel formidable, historique, on a des grandes entreprises, on a une image qui est malgré tout pas trop mauvaise. Alors, c'est vrai qu'on réussit pas si mal que ça, hein, dans le monde, faut pas exagérer non plus, mais je crois que la chose la plus importante, c'est que notre modèle de société, si vous voulez, que tout le monde nous envie d'un certain côté, mais d'un autre côté, il est en train de disparaître peu à peu, parce que l'influence que nous subissons, transporte des valeurs qui vont contre ce type de modèle
qui pénètre en quelque
qui
sorte,
pénètre exactement notre, qui infiltre si vous voulez
notre
manière de voir, de penser, etc. Ouais. Et d'une manière générale celle de l'Union européenne continentale, c'est-à-dire ce modèle un peu social-démocrate si vous voulez, un peu partage public-privé.
Bon. Alors vous recherchez des pistes bien sûr pour redonner à la France son influence.
Oui.
Vous êtes d'ailleurs vous-même une femme d'influence, au moins son intelligence est économique. Je précise à nos auditeurs que cet ouvrage est servi par une plume de grande qualité, un style extrêmement clair. Notamment, vous avez des développements sur les cercles et réseaux sélectifs que je conseille à nos auditeurs absolument de voir. Vous y verrez ce qu'est le siècle, entre autres, et de même qu'un certain nombre d'autres réseaux occultes avec la théorie du complot. Enfin, c'est très bien écrit. Et d'ailleurs, j'en citerai un passage tout à l'heure. Alors, à partir du diagnostic que vous faites, donc du contexte de l'influence et de la place un petit peu dégradée de la France, quelles sont les pistes que vous recommandez plus particulièrement ? Alors, notamment, vous disiez que l'influence, elle doit commencer au plus haut niveau et que le pouvoir le plus élevé devrait se doter d'éléments de conseils.
Voilà. Alors, il y a divers plans, mais effectivement, alors au plan politique, je pense que, d'abord, l'exemple doit venir de haut, si vous voulez, et que, surtout, il faudrait qu'on coordonne un petit peu nos efforts au niveau de l'État. Parce qu'il y a des bribes d'influence un peu partout dans les ministères, mais je ne pense pas qu'il y ait une vraie coordination, comme on peut en voir, et ce n'est pas un hasard, aux États-Unis avec l'Advocacy Center, entre autres. ou bien au Brésil, etc. Donc, premier point, avoir une prise en main au plus haut niveau de l'État, manière coordonnée, plus que coordonnée, avec une orientation, comme ont fait les Brésiliens aussi. D'accord. Coordonnée, c'est très bien, mais il faut orienter, il faut impulser.
Avec une orientation claire et une volonté, en quelque sorte.
Une volonté, voilà. En fait, c'est une histoire de volontarisme politique. Et deuxièmement, qu'on apprenne aussi un peu à travailler, mais pour de bon, en partenariat public-privé, et pas que ce ne soit pas seulement des mots, si vous voulez. Et troisièmement, alors un plan plus général, je pense qu'il faut vraiment accoutumer nos étudiants, et même peut-être avant, au lycée, à savoir décrypter l'information.
Oui. Alors, sensibiliser à cet aspect.
Sensibiliser à tous ces aspects de formation de l'opinion, comment on est impacté par les diverses opinions qui s'expriment sur le web, par des messages qui viennent d'on ne sait où, dont on ne se demande jamais l'origine. Hein. Ouais. Voilà, et ça, il faut apprendre à le décrypter.
Alors, vous appelez de vos voeux de retrouver l'initiative et l'influence intellectuelle pour équilibrer l'influence sans partage du libéralisme pour la démocratie.
Oui.
Alors, en clair, c'est quoi ?
En clair, c'est que le capitalisme a permis un grand développement de richesses, mais aujourd'hui, il est peut-être à bout, en tout cas, le capitalisme qui est devenu financier. Il est clair qu'entre guillemets, il y a une grosse fatigue de ce modèle qui est, on le voit bien, pas partout, les opinions le rejettent, etc. Ouais. Donc, il y a un modèle à créer, puisqu'à côté de ça, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ce modèle purement anglo-saxon est devenu trop financier.
On a le capitalisme totalitaire.
Capitalisme totalitaire à la chinoise, qui n'est pas non plus vraiment fascinant comme perspective. Voilà. On a peut-être des choses comme la charia et autres, parce que je parle de l'influence islamique qui est très très importante d'ailleurs. Je ne crois pas que ça passionne aussi la majorité des gens. Alors je crois qu'il y a vraiment la place pour une Europe, alors là je ne vais plus haut que la France, une Europe qui pourrait promouvoir un modèle, je dirais, équilibré entre un marché qui est absolument nécessaire et des aspects un peu sociaux et culturels qui tempèrent ce que le marché peut avoir d'accès. Là on était très bon jusqu'à maintenant. On s'est laissé rouiller, c'est vrai, depuis 30 ans complètement.
On s'est endormi.
C'est
la belle endormie.
Là c'est vraiment la belle endormie. Mais je veux dire, fondamentalement, on a un contenu à promouvoir et on doit le faire. Mais j'ajoute juste qu'il ne faut pas croire, nous les Français, on a un double travail à faire parce que nos amis européens ne sont pas tous d'accord avec ça. Certains sont totalement anglo-saxonisés et considèrent que tout ça va très bien. Voilà. Donc on a un travail de conviction en Europe et ensuite auprès de l'Europe pour que l'Europe porte un message à l'extérieur.
Alors je ne résiste pas au plaisir de lire une de vos pages, page 233. Justement, c'est le dégagement européen. Comme on dit, il faut toujours qu'il y ait un dégagement européen. La première priorité aujourd'hui est de reprendre l'initiative intellectuelle, de proposer une alternative crédible aux mécanismes mortifères des marchés et d'exercer les influences idoines pour porter cette idée dans le monde. Car le problème ne réside pas dans les traders, les comptables ou les ingénieurs eux-mêmes, mais dans la maîtrise que devraient en avoir les décideurs politiques responsables. Mais ces derniers n'ont plus aucune boussole. Compte tenu de son passé et de son expérience, l'Union européenne serait a priori l'organe adéquat pour s'atteler à cette tâche, à cela près qu'elle doit d'abord elle-même en être convaincue. En effet, la France doit être consciente que la vision d'une Europe modèle à fort contenu politique n'est pas partagée par tous les Européens, très loin s'en faut, et qu'elle doit tenter de convaincre en usant d'une influence professionnelle et argumentée, sans arrogance, en trouvant des accords avec d'autres États. Je crois qu'on est dans l'actualité en même temps.
C'est là que l'influence devient un rouage professionnel qu'il faut savoir maîtriser et dominer, et utiliser.
Alors, c'était les convictions de Claude Revel, qui vient de faire paraître chez Weber, son dernier ouvrage, La France, un pays sous influence, avec des convictions...
Avec un point d'interrogation,
tout à fait. C'est important, le point d'interrogation. Avec des convictions qui se résument parfaitement dans cette dernière phrase de cet ouvrage. Il s'agit tout simplement pour les hommes et femmes de bonne volonté de travailler pour se convaincre et non pour se vaincre. La France peut et doit y jouer sa partition. En tout cas, c'est parfait, très bien écrit. Et j'invite bien sûr nos auditeurs à retrouver cet ouvrage qui d'ailleurs a fait l'objet d'une conférence à Sciences Po récemment, le 30 mai. En tout cas, merci Claude et bravo pour tout ce que vous faites.
Merci beaucoup Jean-Louis. Merci.